ça rime à quoi ? Ça rime à quoi avec Hélène Sanguinetti pour Alparego, pareil à rien.
La nuit partout dans la maison, escargots s'y font les cornes, des animaux pendus, les bords gelés du visage, les mains gelées, dans les gants, car l'eau est entrée d'un coup, elle a dû, de l'eau c'est insaisissable. Sous le tunnel et même bien avant la gare, contre les murs de la pisse d'hommes et de chats, ça sentait tellement qu'on se pinçait le nez tout le long, sous le tunnel, et la bouche bouclée à mourir, oui. Ça sentait. Ça sent encore d'ici. Quelle maison ? Quelqu'un monte à l'échelle ? Autant s'accrocher à la lune pour voir enfin, pour comprendre le sens des recherches. Oui. Quelle maison et quelle nuit ? Qu'est-ce qui reste accroché ou planté, enfoui ou exposé aux oiseaux qui cherchent ? Eux aussi, ils cherchent. La corne de leur bec fouille où ça sent, pas plus loin, là infiniment.
C'est plein de cornes ce recueil-là, Hélène Sanguinetti. Cornes des escargots qui se fondent dans la nuit, ou bec des oiseaux qui fouillent l'inconnu. C'est assez drôle de voir une corne dans un bec d'oiseau. Serait-ce que, comme Michel Léris, qui ne concevait l'œuvre littéraire sans l'ombre d'une corne de taureau, vous appréhendez aussi la poésie comme une mise en danger, une prise de risque, même si là c'est un peu décalé? Quand même, c'est étonnant sur ces deux pages-là, ce mot qui revient.
Oui, alors ce qu'il y a d'étonnant, c'est cela que j'adore aussi dans notre rencontre et dans toutes ces rencontres-là, c'est que vous me faites découvrir des choses que j'ignorais jusque-là, auxquelles je n'avais absolument pas fait attention. Et votre question m'intéresse beaucoup, car je me plais souvent à dire que le poème, c'est pour moi, c'est une prise de risque totale, infinie. Je veux dire même, je vais même peut-être plus loin, enfin, je ne sais pas. Cela ne m'intéresse plus s'il n'y a pas risque. Et je dis toujours que dès que je commence, enfin, ou que se commence un livre, enfin une sorte de chose qui pourrait s'appeler poème et qui deviendra un livre. Je dis que commence une aventure dans le vrai sens d'aventure, dans le sens étymologique, je veux dire. Ce qui peut se produire. Et j'ai toujours l'impression que je vais plonger, qu'il y a une sorte de piste devant où c'est noir, qui appelle. Et c'est un véritable, oui, c'est un inconnu, bien sûr. Enfin, c'est banal de dire qu'écrire, c'est aller dans l'inconnu, mais c'est tellement vrai. Et voilà, il y a cette prise de risque. Et je crois que ces risques, c'est des paris aussi. Je ne sais pas comment vous dire. Je sais et je sens chaque fois que je lance au poème un défi.
Et à vous-même, est-ce qu'après, dans la lecture à voix haute, Hélène Sanguinetti, il y a aussi une façon de faire ricocher ce danger-là initial, avec le public, avec la compréhension ?
Totalement. C'est-à-dire que, quand je vais dire un texte, je ne sais pas comment appeler ce que je fais. Je dis que je le réécris, je dis que c'est l'incarné, ça me paraît être un mot très grave, enfin un peu trop, une prise au sérieux un peu qui ne me correspond pas tout à fait. Parler d'incarnation, donc je préfère dire une réécriture, mais l'écrire et le dire me paraissent être tellement liés, de toute façon, il y a la même prise de risque. Et d'ailleurs, les oralisations ne sont jamais, je crois, ne sont jamais tout à fait les mêmes. Bon, parfois, je me réentends après, je me dis, mais c'est une autre route, là, que tu as prise. Et ça m'enchante, parce que ça veut dire que le texte la possède, et donc qu'il a vraiment plusieurs sens, c'est le cas de le dire. Et c'est merveilleux, parce que j'arrive encore à m'étonner, enfin, à... Voilà, sinon c'est pas la peine qu'on soit là. Enfin, je trouve que c'est très important, cette prise de risque. C'est très important.
Et ce encore, il a commencé quand, alors? Le poème vous tient depuis combien d'années, Hélène Sanguinetti?
Depuis que je suis... Écoutez, j'avais 12 ans. J'avais 12 ans, donc j'étais très très petite, très turbulente, très joyeuse. J'avais 3 frères, ils disaient leurs textes, j'avais des cousins qui étaient très musiciens. J'ai été élevée dans ces voies-là, dans cette magie, j'allais dire. Et donc, j'ai essayé, je crois, de faire comme eux. Et je l'ai raconté plusieurs fois. Et un jour, j'ai ouvert mon petit secrétaire que j'avais dans la salle à manger de mes parents, lorsqu'on habitait Marseille, au boulevard de la Libération. J'ai regardé les choses que j'avais devant moi, dans mon bureau. Alors, vous savez, je lisais Tintin, L'île Noire. Je lisais... j'avais une gomme marque Pélican. Des cahiers à spirale, tout ça. Et j'ai pris une feuille d'un classeur, une feuille qui était vert clair. Et là, j'ai commencé à nommer les choses que j'avais devant moi, les objets que j'avais devant moi. Alors, bien sûr, il y a eu le pélican, donc ça a donné Bianca. Le poème s'appelle Bianca, c'est le premier que j'ai écrit. Hola, Héron, pélican, Hela, Héron, c'est Bianca, etc. Bon, et Bianca, c'était bien sûr Bianca Castafiore. J'avais mis des étiquettes, si vous voulez, voilà. Et je les avais placés, ces mots, sur la page, de manière à ce que ça fasse, comme ce que faisaient mes frères, un dessin. C'est-à-dire, le poème était déjà, ça m'importe énormément, était déjà cette, j'allais presque dire, ce corps dans la page. Il n'y avait pas de ponctuation, parce que, évidemment, il ne fallait pas ponctuer, donc j'avais laissé des petits blancs entre les mots, comme eux. Et puis je l'ai lu, ce poème, bon, à voix haute, je suis allée voir mes frères et tout, ils ont trouvé ça génial et ils m'ont beaucoup encouragée après. Donc ça ne s'est plus arrêté à partir de là.
Et cet Alpar Ego, alors, ce pauvre guetteur qui donne son titre à ce livre-là repris aux éditions de l'Amandier, Alpar Ego, pareil à rien, comme on dit bon à rien, sauf que lui, c'est tout l'inverse. C'est un homme aux bandelettes dont le nom résonne un peu comme celui d'un condottiere italien. Ça vient d'où, Alpar Ego ?
J'ai l'habitude, enfin, l'habitude, c'est un grand mot, mais j'aime beaucoup, ou il me plaît, de fabriquer, presque pour tester mon pouvoir de partir dans une aventure, justement, dans un poème. Il m'arrive, alors ça fait depuis très 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 longtemps, je trace des dessins, des formes, bon, sur du papier. Et puis, un jour, j'ai commencé à faire des têtes dans l'argile. Et ces têtes sont devenues extrêmement importantes pour moi. Donc des têtes, hein,
des visages.
Des visages, et toujours une tête, bon, alors peut-être parce que je ne sais pas faire autre chose, hein, c'est possible. Toujours cette tête très nue, très, très lisse aussi, et qui est légèrement, qui regarde légèrement vers le ciel, si vous voulez, on peut dire ça, qui est le visage va un peu vers le haut, enfin je sais, voilà. Et donc j'ai commencé à faire ces têtes, et puis ces têtes, étrangement, sont entrées, enfin, m'ont permis de vraiment sentir extrêmement présent des sortes de personnages qui allaient devenir des êtres de ce peuple qui me suit tout le temps dans mes livres. Et par exemple, dans mon premier livre publié en 99, De la main gauche exploratrice, il y a deux personnages. Il y en a un qui s'appelle, enfin, je dis des personnages pour aller vite, moi je préfère dire des êtres. Il y en a un qui s'appelle Emilio et l'autre Chango. Et ça a d'abord été ces petites têtes assez étonnantes en argile. Alors pour Alpar Ego, un jour, j'ai pris du plâtre, du carton, de la gaze, de l'étoupe, des bandes, et puis c'est monté une sorte, je sais pas comment le dire, une sorte de statue de, qui a fait 51 cm de haut, qui s'est finie par une tête. Il n'y a pas de bras, il a apparemment pas de jambes, il est, il y a une tête, il a deux yeux, il y en a un qui est un petit galet de la plage, un autre qui a un bouton. Il a sur la tête trois petites, on va dire, allumettes en bambou. Enfin, c'est un peu plus gros que des allumettes. C'est des petits bouts de bambou qui font un peu... Alors, je reprends votre idée de cornes. C'est la première fois que ça me vient. Ça fait un peu des cornes, si vous voulez. Et puis il est... voilà, il est très... apparemment raide, comme ça. Et alors, je l'ai peint en jaune, un jaune très, très violent, acrylique. On voit la trace des bandelettes hein, tout autour. Et puis, le visage est rouge, rouge, rouge. Et il a bien sûr le cœur aussi qui est rouge, parce que ça, c'est drôle, je trouve, de marquer la place du cœur. Et il est là, planté, oui, guetteur, protecteur, ou l'inverse, maléfique, bénéfique, bénéfique, je pense. Quand je l'ai eu fini, cet être-là, je me souviens. Le maître dit, mais qu'est-ce que tu veux, toi? Mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu me veux? C'était étonnant, vous ne pouvez pas savoir, c'était étonnant. Et d'un coup, il m'est venu ce nom d'Alparego. Je l'ai appelé Alparego. Et je lui ai dit, mais tu es pareil à rien, toi. Alors c'est drôle, parce qu'à la même époque, j'étais en train d'écrire un poème, il n'y a pas de titre, mais c'était un petit texte comme ça, que j'ai mis après sur une grande affiche, que j'aime toujours, et où il y avait un personnage qui était prince de rien. Alors tout ça a fait une sorte d'amalgame, si vous voulez. Et il est devenu donc ce personnage-là, Alparego, pareil à rien. Alors voilà comment est né, si je puis dire, le poème. D'ailleurs, on retrouve hein, un passage comme ça avec cette sorte de bec d'oiseau, parce que c'est vrai qu'il a un bec d'oiseau, enfin... Il m'a ouvert la route, donc, pour ce poème, d'une manière extrêmement, c'était urgent, quoi. Et donc, il est devenu très rouge. Donc, je disais que les couleurs étaient très vives, parce qu'en fait, je dirais presque qu'il y avait déjà toute la rage dans cette statuette dont le poème allait devoir se charger. Je prends le mot de charger en plein sens, hein, avec tous ses sens. Voilà, et cette rage, elle était... Je m'en souviens mal, parce que c'est un peu... Bon, je vous raconte ce qui vraiment m'a particulièrement marqué, quoi, avant l'écriture du texte, qui est quand même... C'est quand même un peu particulier, quoi. Mais ça m'arrive. Comme m'arrive aussi de... Bon, je pense à Et voici la chanson, qui a été aussi publiée par Lamandier en 2012, mais où il y a un couple très antagoniste, qui est le couple dont notre vie est faite, hein, qui s'appelle Joug-Jouy. Après le livre, alors ça c'est beaucoup plus rare, mais ça m'arrive aussi, après le livre, j'ai fait un être très très étonnant, bicéphale, et avec une tête, une face souriante, et une face monstrueuse. Et voilà, et j'aime beaucoup dire, voyez, je vous présente Chango, je vous présente Emilio. Voyez, c'est Alparego. Et en même temps, j'aime bien les cacher aussi, parce que c'est comme quand on impose, par le dire justement du texte, on impose plus ou moins, il y a des gens qui me disaient ça, ah, vous m'avez vraiment la manière dont vous avez dit votre texte, maintenant je comprends absolument ce que vous écrivez. Et ça me pose un peu des problèmes. Alors, comme si j'avais donné la route, la clé. Il n'y a pas de clé, on le sait bien. Bon, et avec ces êtres-là qui forment ce peuple, donc, parfois, eh bien, voilà, j'ai aussi envie de les, oui, de les cacher.
Une petite voix qui insiste, c'était, est venue de très loin, passée sous l'armure, venue là-dessous, venue de là. Je ne suis pas de ce pays, pas d'ici, je ne suis pas d'ici. Ainsi disait, en se touchant les lèvres qui saignaient encore un peu, celles du bas saignaient encore très peu. De quel pays vraiment venez-vous? Se peut-il qu'une mule, et même courageuse, fasse tant de kilomètres dans la brume, consente à passer l'eau? Se peut-il qu'existe une mule d'aujourd'hui, une fille, assez têtue pour passer en soulevant du ciel, en résistant aux flèches, aux flammes? Mon fils a cette même lèvre, mon enfant, seul garçon. Je suis du pays de l'homme aux bandelettes, l'homme rafistolé. Il a moitié soleil et moitié lune dans ses yeux. Il s'appelle Alparego, pareil à rien. Petite voix qui insiste, douce et dure, de très loin, avec des flèches et beaucoup d'eau. De quel pays êtes-vous? De quel pays? Lequel, s'il existe? Car nous n'attendons personne qui vous ressemble, même un peu. Quelqu'un, petits yeux, en prenant l'air sur sa porte. Tant de manières mènent à la patience et à l'admiration d'un coucher de soleil sur la mer. Trop patient, mou, trop content d'admirer. Et langue et œil perdent leurs bons habitants teigneux, teigneux piquants qui font trouver. Faut couper bien vite cette langue alors, arracher ses yeux, bien vite faire un nœud au paquet mou, paquet sanglant, et le jeter dans la descente, et roulera jusqu'à la mer, s'enfoncera, disparaîtra.
C'est plein de notes en marge au crayon papier sur votre livre, Hélène Sanguinetti. Ce livre qui d'ailleurs est couvert de papier transparent comme au temps de l'école. C'est une partition pour vous? Qu'est-ce que ça dit, tout ce qui est crayonné à côté de la lecture?
Oui, enfin, c'est... Bon, ce qui est crayonné, c'est ma manière de réagir au texte.
À votre texte?
À mon texte. C'est-à-dire, vous savez que... On le sait bien, hein, tous, une fois que ce texte est écrit, je dis pas qu'il nous devient inconnu, mais je suis très ignorante, en fait, après. Et surtout que, bon, donc ça fait quand même... combien de temps ça fait... Bon, j'ai fini ce texte en 2000, republié en 2005, aujourd'hui on est en 2015. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments... Enfin, c'est faux ce que je dis. Je vais dire que ces moments... en fait, je crois que dans le dire du texte, je retrouve l'écriture du texte. C'est très étrange, d'ailleurs. Mais je voulais dire que c'est ma manière de... C'est notre crayon, c'est ma manière de réagir, de lui parler à mon texte, oui. Et alors, la partition dont vous parlez, elle est... Bon, elle, c'est le poème qui est une sorte de partition. Je crois que c'est... Il me semblait bien que c'est Yves Dimano qui avait parlé de partition par rapport à mes livres. Je trouve ça très juste.
Votre premier livre de poésie, Hélène Sanguinetti, paru chez Flammarion en 99, s'intitulait donc « De la main gauche, virgule, exploratrice ». Est-ce que votre poésie, comme dans le dessin ou la peinture, où l'on peut sentir une main de gaucher ou une main de droitier en fonction du sens des traits, est-ce qu'il y aurait une voix de droitière ou de gauchère? Puisqu'en plus, vous dites vous-même que vos poèmes naissent de sculptures parallèles.
Pas toujours, ils naissent de sculptures parallèles. Mais ce qui m'intéresse, ce qui me plaît vraiment dans ce que vous dites, c'est cette main gauche. La main gauche, c'est la main sauvage. C'est la main qui est capable d'aller justement chercher où on ne sait, on ne sait pas, où on ne sait rien. Il me semble, oui, que c'est la main malhabile, c'est la main qui a pas été éduquée, c'est... oui, c'est séduisant, hein, comme...
Elle est pleine de promesses.
Elle est pleine de promesses. Oui, j'espère qu'il y en aura encore de belles.
France Culture, ça rime à quoi? Sophie Nolot.
Et ce regard-là, en couverture d'Alparego, pareil à rien, aux ouais. Éditions de Lamandier, de qui est-il? On dirait donc une photographie cadrée très, très près, des oui. Sourcils, deux yeux, le début d'un nez.
Il s'agit de mes yeux, de mon regard.
En noir et blanc,
on ne voit pas le bleu. En noir et blanc, oui. Donc c'est la nouvelle marque de présentation, de couverture de l'éditeur. Éditeur que d'ailleurs, si je peux le dire là tout de suite, que je remercie vraiment, je le salue parce que c'est Lamandier, donc c'est Laurent Citrino et Codebert, la directrice de collection, qui m'ont donc proposé de rééditer ce texte qui était épuisé, puisque Henri Poncé, qui était l'éditeur de la première édition, a donc été obligé de déposer le bilan de l'acte même, hein, de Compact d'abord et puis après de l'acte même. Henri Poncé, que je salue aussi vraiment beaucoup, parce qu'il a tellement défendu ce livre, et que c'est merveilleux ce qui arrive à ce livre, hein, d'être réédité comme ça, de renaître. Je trouve ça très... Ça me fait un immense plaisir. Et donc, cette première de couverture a un peu changé par rapport aux autres, puisqu'avant, il y avait le buste complet de la personne donc, qui avait écrit le texte. Et là, c'est le regard, ce que je trouve déjà un peu plus mystérieux, un peu plus étrange. Donc, ça ne me déplaît pas, même si ça a pu me gêner. Donc, que ce soit moi qui aime tellement peu que le sujet, l'écrivante ou l'écrivant, soit identifié ou identifiable. Bon, j'aime bien qu'on voit moins, quoi, qu'on sache moins de... Mais je ne sais pas, ça fait un peu masque, peut-être, ce regard.
Vous dites souvent, Hélène Sanguinetti, que le journal L'Équipe vous inspire, et vous inspire autant que les penseurs. C'est parce que vous êtes du genre poète sportive?
Oui, poète sportive, je crois que je suis très physique. Je pense que, bon, j'ai été aussi, je parlais de ma petite enfance tout à l'heure, je crois que j'ai été... Je dis souvent... Quand on me pose ce genre de questions, que je viens de la mer et des rochers et du soleil et du vent, et la mer pour moi a une importance essentielle. Alors je dirais, on parlait de musique tout à l'heure, le mouvement de la mer, le balancement de la mer, la profondeur de la mer, le côté très tranchant puisque moi je viens de Marseille. Et bon, je vous parlais d'écriture tout à l'heure. En fait, j'ai appris, je peux dire que j'ai au moment où j'écrivais, où je commençais à écrire, je nageais déjà très bien. Et l'écriture du poème m'accompagnait dans l'eau. Je sais pas comment vous le dire, mais en nageant, j'ai trouvé des choses. Vous voyez, la fin d'Alparigo, par exemple. Je peux vous dire que la fin d'Alparigo, c'était quelque chose que je n'arrivais pas à écrire. Ça, je m'en souviens très bien, vous voyez. C'est resté dans le corps. Eh bien, je l'ai trouvé. Je faisais une randonnée en VTT, eh bien j'ai trouvé la fin de ce texte. Bon, alors, on peut l'aimer ou pas l'aimer, la question n'est pas là du tout. Mais je me souviens très bien que je me répétais, j'avais rien pour noter, enfin, c'était impossible de s'arrêter. Et je me répétais dans la descente, je me répétais les phrases de la dernière strophe pour ne pas les oublier et pour vite, en arrivant à la maison, les noter, ce que j'ai fait d'ailleurs. Donc oui, c'est physique. Alors quand j'ai parlé du journal L'Équipe, il y a beaucoup de sites aussi qui ont repris cette petite description. C'était un rien provocateur. Je trouve, si vous voulez, qu'on a tellement besoin de retourner au corps. Enfin, je ne sais pas si on l'a quitté, mais moi j'ai besoin d'air, j'ai besoin de muscles, j'ai besoin de sang qui passe, justement, de cris, de voilà, j'ai besoin que ça existe, quoi. Pour moi, c'est une catastrophe que... Enfin, c'est pas une catastrophe, j'exagère, mais c'est très difficile de que le poème soit dans cette page et qu'il soit là couché, si vous voulez. Alors déjà, sur l'écran, on le met debout, l'écran est éclairé. Bon, il est éclairé aussi, ce texte, donc déjà, c'est un peu plus vivant. Mais quand même, quoi, il est pris dans cette page, il est avec ses caractères, il est...
Qui chez vous, en plus, Hélène Sanguinetti, grossissent, diminuent, enfin, il y a un jeu d'écho comme ça, vous jouez beaucoup de la typographie.
Oui, oui, alors...
Pour réveiller le texte.
Oui, je ne joue pas, ce n'est vraiment pas
un jeu. Ça s'impose.
Ça s'impose absolument, vous savez, avant même que le poème, qui se mette sous forme de mots, je peux vous dire Mais c'est chaque fois la même chose. Je peux vous dire que déjà je le vois et l'entends. C'est-à-dire que le poème se place... Vous savez, les chats dans les jardins, vous savez, les chats, ils sont magnifiques, ces chats. Ils se placent d'une façon, ils arrivent toujours... Ils se blottissent à tel endroit, à tel autre, d'un coup ils s'étirent, ils font 3 kilomètres de plus de long, vous voyez. Ils ont cette sorte d'élasticité. Eh bien moi, les mots qui vont arriver, déjà je me dis, ah voilà, hop, ça se place. Par exemple pour Alpar Ego, eh bien quand j'ai rouvert le livre pour le donner à rééditer, quand j'ai relu le livre qui était rouge, donc le livre de qu'avait édité Henri Poncet, ah ben oui, je me souviens très bien, je me suis souvenu, il y a une voix qui se place à gauche, qui prend un peu ses aises quand même dans la page, qui est et qui peut un petit peu déborder, qui est bon une voix, il y a l'escargot avec elle, il y a bon le cavalier, il y a bon un peu la voix de l'écrivante, bon très bien. Et puis il y a une petite voix, j'allais dire
en italique.
En italique, en plein milieu de la page, colonne très serrée. Et puis il y a une troisième voix qui est cette voix de la narration, d'une narration fabuleuse, enfin merveilleuse.
Il était une fois.
Voilà, il était une fois avec les contes. Et donc voilà, ça s'est placé comme ça, vous voyez, avec le 1 2 3 4. Je savais que tu irais jusqu'à 7 parce que c'est un chiffre magique, bien sûr. Bon, ça, c'est des petites choses qu'on se donne. Voilà, ça aussi, c'est très physique. Dans la typographie, il y a déjà le rythme, il y a ce qu'on entend, il y a ce qu'on voit. Et moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est ce que j'ai beaucoup fait dans la chanson aussi, dans Et voici la chanson, c'est que voir le texte et l'entendre déjà. C'est pour ça qu'on peut parler de partition, hein.
Et de refrain et d'écho, puisque vous n'hésitez pas, Hélène Sanguinetti, ouais, en table des matières, à reprendre dans ces 7 parties, donc, oui, fétiches, ouais, la nuit partout dans la maison. Et ça revient, le titre revient 2 fois, oui, comme une erreur volontaire.
Oui. Oui, une erreur qui est, non, c'est absolument volontaire, oui, bien sûr. Parce que la suite n'est pas tout à fait la même. Ça m'a plu qu'il y ait cette répétition.
Comme un dérailleur ?
Oui, comme un dérailleur, oui. Absolument, oui. Dans la première édition, il n'y avait pas de table. Depuis quelque temps, d'ailleurs, dans l'édition de mes livres, enfin, il n'y en a pas tellement, mais bon, parce que je suis assez lente, mais je veux dire, oui, j'aime bien mettre la table des matières, parce que d'un coup, il y a une vérification, si vous voulez, du parcours que j'ai fait sur la piste, vous voyez ? C'est pas mal, c'est comme des petits, vous savez, les petits galets, les petits poussés, tout ça. Les petits bouts de pain, ou de... Les petits... Voilà.
Alpar Ego, pareil à rien, d'Hélène Sanguinetti, est publiée aux éditions de l'Amandier. Ça rime à quoi, 24h sur 24 sur franceculture.fr, pour écouter durant 1000 jours et nuits et télécharger librement le temps d'une année entière. Ça rime à quoi, Claude Niort, Philippe Palares, Henri Leblanc, Patrick Molinier, Sophie Nolo. Changement de décor dès 20h30 sur France Culture, place au théâtre avec Joël Gaillot.